Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous avons parlé de l'âme du Christ, l'âme de Jésus, dans notre dernier échange christologique, puisque nous sommes dans la christologie, dans le catéchisme de l'Église catholique. Et là, voilà une autre question. Je vois dans le numéro 473, donc ici, qui suit l'article 472 sur cette âme humaine que le Fils de Dieu a assumée. Ici, il y a une formule qui méritera d'être regardée de plus près. La connaissance intime et immédiate que le Fils de Dieu fait homme a de son Père. La connaissance intime et immédiate du Fils de Dieu sur son Père. Cela demande peut-être d'aller regarder un peu plus loin, ça.
Oui, c'est une expression très forte qui est ce qu'on appelle le constitutif formel de la vision béatifique. Le Christ avait, par le fait qu'il était le Verbe et qu'il s'était uni par l'Assomption, sa nature humaine, influencé sa nature humaine. Sa nature humaine était divinisée. Et la nature humaine du Fils de Dieu, non par elle-même, mais par son union au Verbe, connaissait et manifestait en elle tout ce qui convient à Dieu. Et il y a cette certitude qu'au sommet de l'âme de Jésus, donc, Jésus voyait son Père. D'ailleurs, il le dit à plusieurs reprises, « Qui me voit, voit le Père. » Et il le dit à Philippe comme un reproche, comment peux-tu dire « Montre-nous le Père ?»« Qui me voit, voit le Père. » Jésus est dans la vision permanente de son Père, dans le sommet de son âme. Ce qui n'exclut pas qu'il y ait eu, en même temps ce que nous disions la dernière fois, la connaissance expérimentale qu'il a eue, qui faisait que, selon chaque moment de sa vie, eh bien, cela convenait à son état, à son âge, au développement de sa vie expérimentale. Il avait une science expérimentale. Mais il avait aussi cette science béatifique qui faisait qu'il pouvait, eh bien, avoir cette connaissance intime et immédiate de son Père. Le Fils, dit le catéchisme de l'Église catholique, le Fils montrait aussi dans sa connaissance humaine la pénétration divine qu'il avait des pensées secrètes du cœur des hommes. Ça, c'est plutôt la science prophétique, c'est-à-dire qu'il avait la capacité, comme un prophète, de connaître ce qui advenait. À un moment, il guérit la main d'un homme qui est desséché, cette main, et alors qu'on le met en demeure de faire un miracle, il le fait, mais il voit en même temps le cœur endurci de ceux qui sont autour de lui, et il se met en colère, parce qu'il voit leurs pensées. S'il n'avait pas vu leurs pensées, peut-être qu'il n'aurait pas exprimé cette colère, mais il le voit. C'est la science prophétique. Il voit ce qui se passe dans le cœur des hommes, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On le voit chez les plus grands saints qui ont la cardiognosie, la connaissance des cœurs. Jésus l'avait d'une manière immédiate, innée, car il est Dieu et il est venu comme instrument du salut. Et c'est vrai que du point de vue de l'instrument du salut, c'est fort utile d'avoir cette pénétration divine des pensées secrètes du cœur des hommes. On peut, dans certains grands saints, le voir aussi lorsque on dit de la Vierge Marie que, à travers la prophétie de Siméon, qu'un glaive percera son cœur et qu'elle connaîtra d'une certaine manière les pensées intimes. Et il y a cette capacité prophétique de parler au nom de Dieu et qui montre bien que dans le Christ, finalement, il y avait donc trois niveaux. Un niveau de science acquise, comme nous connaissons tous dans notre humanité ordinaire, dans l'ordre de l'extension. Il faut bien acquérir les langues, les connaissances, dire les choses qu'elles sont. Il y avait l'aspect prophétique, mais donné à un point évidemment le plus élevé en Jésus, le plus grand des prophètes. D'ailleurs, Jésus ne nie pas qu'il est le plus grand des prophètes quand on lui pose la question. Et enfin, troisièmement, il est le Fils bien-aimé du Père, et il voit le Père. Donc ces trois dimensions sont très frappantes, qui donnent la singularité de qui était Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Ce n'est pas une humanité comme la nôtre. C'est pour cela que les pères de l'Église disent qu'il n'est pas simplex, au mot, qu'il n'est pas un homme simple comme nous connaissons dans notre univers, notre identité humaine. Il est le Verbe incarné. Et de ce point de vue-là, évidemment, tout est donné en vue de notre salut. Ce n'est pas, comme certains médiévistes ont pu le penser, qu'il aurait une sorte de connaissance immense de toutes choses. Il aurait été à la fois un génie en physique, en mathématiques, en tout. Non, Jésus n'avait pas besoin, il n'avait pas besoin de plus que ce qui était nécessaire à notre salut selon les conditions de son âge. En grandissant, eh bien, il avait tout ce qu'il fallait. Et il y a donc cette pensée très belle du catéchisme au numéro 474 qui dit « De par son union à la sagesse divine en la personne du Verbe incarné, la connaissance humaine du Christ jouissait en plénitude de la science des desseins éternels qu'il était venu révéler. » Donc il y a vraiment un don prophétique pour l'exprimer, parce que d'une certaine manière, cette vision qu'il a de son Père est tellement grande et tellement élevée, mais non conceptuelle. Elle est de l'ordre de la vision face à face. Et donc, il fallait en même temps pour le Christ qu'il puisse exprimer, par exemple, sa prière dite sacerdotale du chapitre 17 de Saint Jean, qui est admirable, eh bien, il fallait des mots pour le dire. Et là, c'est vraiment la science prophétique du Christ qui lui permet d'exprimer ses vérités de ce qu'il vit au niveau de sa science béatifique. Mmh. Il fallait quelque chose qui dépasse entièrement notre condition humaine pour dire ces paroles, à tel point que les apôtres s'en rendent compte, puisqu'à un moment ils disent « Maintenant nous savons que tu sais tout ». C'est quand même assez frappant dans ce dialogue des chapitres 14-15, nous voyons que tu sais tout. Nous n'avons plus besoin de t'interroger. Nous voyons que tu sais tout. Ça, c'est l'affirmation de la science prophétique. Oui. C'est quelque chose donc, qui doit nous permettre de mieux contempler cette modalité avec laquelle le moi divin assumait ce moi humain dans notre humanité commune.
Oui. Donc trois dimensions, je les récapitule. La connaissance expérimentale de toute étape de sa vie, par exemple, de son âge, la réalité comme nous avons, nous, connaissance expérimentale. La deuxième dimension, donc la connaissance prophétique, la science prophétique, donc, comme tu l'as bien exprimé, bien développé ici. Et donc l'autre niveau qui était cette, comme on a vu l'expression, hein, connaissance intime et immédiate donc, que le Fils de Dieu avait de son Père. C'est ce qu'on appelle la vision béatifique.
Exactement. Cela. Voilà, connaissance intime et immédiate qui est sans la nécessité d'avoir des concepts. Il n'y a pas de concept, c'est une connaissance intime et immédiate, directe. C'est-à-dire, il voyait avec son âme le mystère divin, le Père, le Fils, tel que lui-même l'était comme Verbe engendré, et le Saint-Esprit, spiré par lui-même comme Verbe et avec son Père. Et donc, c'est une vision du cœur, comme dit un jour Saint Paul, les yeux illuminés du cœur. C'est une belle expression de l'Épître aux Éphésiens. Bien, Jésus l'avait d'une manière tout à fait éminente, en intensité, parce qu'aucun de nous aurons cette vision aussi absolue, puisque lui est membre de la Trinité. Il n'est pas extérieur à la Trinité. Nous restons toujours extérieurs à la Trinité. Nous aurons la vision béatifique comme un aboutissement des mérites d'un sujet qui doit être sauvé, et Jésus, lui, utilise son humanité comme instrument de notre salut.
Ouais. Certains chrétiens, parfois, vont se torture quand même l'esprit en disant, mais est-ce possible qu'il ait eu cette connaissance intime donc du Père? Et même certains se demandant, Jésus-Christ savait-il qu'il était Dieu?
Oui. Alors c'est vrai que certains ont posé la question. Je me souviens du père Dreyfus à Jérusalem, qui avait écrit un beau livre, « Jésus savait-il qu'il était Dieu ?» Il m'avait fait lire le manuscrit pour voir un petit peu comment un quidam qui n'avait pas encore fait beaucoup de théologie réagissait. Moi, je trouvais ça très bien. Après ça, un de mes éminents professeurs avait trouvé un petit peu à redire sur les formules exégétiques du père Dreyfus. Mais c'est vrai, Jésus savait qu'il était Dieu. Il n'y a aucun doute à avoir, mais il vivait cela dans une certaine nuit, puisque le sommet de son âme, dit saint Thomas d'Aquin, ne rejaillissait pas toujours sur les parties plus basses de son âme, sauf à un moment, au moment de la transfiguration. Alors à ce moment-là, il y a eu comme un miracle, une cessation de l'économie, je dirais au sens restreint du terme, qui empêchait le sommet de l'âme de redonder sur les parties inférieures de l'âme jusque sur le corps. Il y a eu un petit moment où cet empêchement a été retiré. Et du coup, le sommet de l'âme, la vision béatifique dans cette communion, de cette vision immédiate et intime du Père, a rejailli sur toutes les autres parties de son âme, jusque sur son corps. Et les apôtres ont vu le miracle de la transfiguration. Ce n'est pas une construction théologique, la transfiguration. Mmh. C'est une expérience réelle. On connaît des centaines de saints qui ont connu des transfigurations du corps par l'effet de la grâce.
Merci, frère Édouard.
À bientôt.
À bientôt.